بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بشفاء الإسلام السلام عليكم. Nous remercions Allah Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jal, qui nous donne la possibilité de reprendre donc ce programme sur le Qiyama, sur la situation des croyants le jour de Qiyama. Et l'objectif de ce programme, encore une fois, on récapitule, c'est d'expliquer comment aura lieu la résurrection, comment aura lieu les comptes, et ainsi de suite, les autres étapes jusqu'à la remise délivrée, ça en entendant, on va en parler par la suite, le passage au niveau de la mizane, les balances, d'accord, le sirat, et ainsi de suite, toutes les étapes jusqu'à l'accès au paradis, ou alors qu'Allah protège les gens qui iront en enfer de le Jahannam. Et si on prend tout ce temps pour expliquer ces ahwal, ces situations de l'au-delà, c'est parce que la foi en Allah nécessite la foi en l'au-delà. Les deux sont obligatoires. Une personne qui n'a pas conviction sur le akhirat ne croira pas réellement en Allah Azza wa Jal. Quelqu'un qui n'a pas une compréhension authentique, correcte, détaillée, précise des situations du akhirat, de l'au-delà, cette personne n'éprouvera jamais la taqwa. Impossible. Si quelqu'un n'apprend pas à connaître le Jannah, le Jahannam, et avant ça le Mahshar, le Mizan, Sirat, et ainsi de suite, cette personne n'aura jamais la taqwa. C'est impossible. Parce qu'on ne peut pas craindre Allah, Rabbul Izzah, on ne peut pas éprouver la crainte d'Allah tant qu'on ne connaît pas qu'est-ce qui nous attend là-haut quand on retourne auprès d'Allah. Et d'ailleurs, voyons que les personnes qui, en général, sont dans l'égarement, dans les péchés, certes, les pécheurs, on va dire endurcis, ce sont des personnes qui ont peu de ilm, peu de connaissances religieuses. Parce qu'une personne qui a la science, qui connaît, qui a appris, quand je dis qui a la connaissance, ce n'est pas forcément un alim, un mufti, un fundi, ou non, c'est quelqu'un qui a un contact avec la science religieuse, un contact régulier. Soit directement, il lit, soit par l'intermédiaire d'un cheikh, c'est-à-dire d'un professeur, d'accord, que la personne ait un contact régulier avec le ilm, et plus la personne, et principalement tout ce qui concerne l'akhira. Et on ne peut pas dire que ça c'est superflu. Il y a des gens parfois qui se disent que je fais mes 5 salats, je jeûne, je lis le Coran, je fais le zikrullah, j'ai fait mon hajj, je donne la zakat, c'est très bien, ça c'est les piliers d'islam. Mais la personne se dit que ben voilà, avec ça c'est bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, avec ça je le jannah. D'accord, ce sont les piliers de l'islam, mais est-ce que tu les fais correctement? Est-ce que quand tu te prosternes devant Allah, tu te prosternes comme Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, se prosterner devant Allah? Est-ce que quand tu donnes fi sabilillah, c'est comme Uthman Ghani, Uthman ibn Affan radhiallahu anhu, qui donne dans le chemin d'Allah, sans hésiter, avec cœur, sans craindre le lendemain, et ainsi de suite? Et qu'est-ce qui fait qu'il y a un décalage dans la pratique des arkan l'islam, dans la pratique des piliers de la religion, les 5 piliers qu'on connaît, entre nous et les sahaba? Pourquoi il y a un tel décalage? C'est par rapport au décalage de iman. Décalage de foi. Et iman, c'est 6 branches. Les 6 branches qu'on a déjà expliquées maintes et maintes fois. S'il y a un manquement dans les arkan de l'iman, dans les piliers de la foi, automatiquement cela va se répercuter sur les piliers de l'islam. Automatiquement, cela va se répercuter sur notre manière d'accomplir la prière, sur notre manière de jeûner, sur notre manière de, et ainsi de suite. Même quelqu'un qui fait le tawaf hawla al-bayt, quelqu'un qui fait le tawaf autour de la Kaaba, s'il n'a pas une bonne connaissance des piliers du iman, son tawaf va compter, inshallah, son umrah ou son hajj va compter, mais il ne va pas avoir la spiritualité qu'il faut, connaissance et avoir à travers ces arcanes de l'islam, à travers ces piliers de l'islam, et principalement cette action merveilleuse qu'est la tawaf. Et quel dommage qu'une personne fasse un sacrifice, il paye un hajj. De nos jours, le hajj est devenu un luxe extraordinaire, 6 000, 7 000 euros, je ne sais pas combien ils vont mettre encore par la suite. Bref, quelqu'un qui va dans les lieux saints, qui va à Arafat, Muzdalifa, il lève les mains, il demande à Allah, le wukuf à Arafat, et il demande à Allah des choses, il ne connaît pas qui est Allah. Il ne connaît rien des sifats d'Allah. Il ne connaît rien de son Seigneur. Alors que s'il connaissait, par exemple, qu'Allah est Karim, la générosité d'Allah, son doua serait différent. C'est-à-dire quand on est conscient qu'on est en train d'invoquer celui qui est le généreux, ben il n'y a plus de limite quand tu demandes. Il n'y a plus de limite. Autrement, c'est une demande de désespéré. Et Allah, ça les juge. Une demande traditionnelle. Je demande les mêmes doigts que depuis 25 ans, je demande. Mais sauf que là, je suis à Arafat, je suis en Ihram, basse. Mais quand quelqu'un, il connaît qu'Allah est Karim, généreux, Allah est Sami', Allah est Basir, Allah est ala kulli shayn qadir, et ainsi de suite. Si on connaît, subhanallah, les qualités, les sifat, les attributs d'Allah, azza wa jal, ben, la teneur, la puissance du doigt, différent. La puissance de ton sijda, c'est un autre niveau. Le tawaf, un shawt, un tour autour de la Kaaba, avec de telles connaissances sur Allah, Rabbul Izzah, ça te donne un autre niveau de spiritualité dans chaque action. Bref, si aujourd'hui il y a manquement dans la vie du musulman, c'est pas parce qu'il manque de ulama. Il y a 150. Tu travailles. D'accord? Un alim au mètre carré et demi. C'est des taux, je pense qu'après les pays arabes, c'est un des taux les plus élevés. Hafiz al-Qur'an. Allahu Akbar. Tous les 5 cm carrés, on a un Hafiz al-Qur'an. J'exagère, hein. Mais c'est un des taux les plus élevés dans un pays non musulman. Ça, c'est sûr. Donc, il ne nous manque pas de Hafiz al-Qur'an. Yani, en pourcentage, dans notre communauté, tenez-vous bien, il y a plus en pourcentage, hein, il y a plus de Hafiz al-Qur'an qu'à l'époque des Sahabes. À l'époque des Sahaba, ils ne mémorisaient pas tous le Coran. Pas tous les Sahaba mémorisaient l'intégralité du Coran. Il y en avait quelques-uns qui étaient connus, reconnus comme étant des Qurra, des lecteurs, des gens qui connaissaient le Coran. Donc, en termes de pourcentage, on a plus de Hafiz al-Quran qu'à l'époque des Sahaba. En termes de pourcentage, bon, ça par contre, les savants ne peuvent pas dire, parce que tous les Sahaba étaient des piliers de science. Mais quand un Sahaba il connaît quelque chose, et quand nous on connaît, on va dire la même chose. Par exemple, on est en train d'expliquer depuis des mois et des mois le hadith Jibril, où il explique le pilier de la foi, à Saint-Clotilde. Ma compréhension et ma pratique de ce hadith, et la compréhension de Umar ibn al-Khattab, qui était présent lorsque l'ange Jibril est venu, et sa pratique de ce hadith, on ne compare pas. Comme un grain de sable dans un désert, on ne compare pas, d'accord? Donc, il ne manque pas de savant. Il ne manque pas de Hafiz al-Qur'an, il ne manque pas de Mus'haf. Combien de placards il y a? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans toutes les mosquées, Alhamdulillah, Mus'haf, c'est-à-dire les Qur'an, je veux dire, quantité. Il y a plus de Qur'an dans la masjid de Montreuil qu'il y en avait dans la masjid Nabawi à l'époque, je crois, oui ou non? Parce qu'à l'époque, je crois, il y avait quelques, comment on appelle ça, des scribes, quelques personnes qui écrivaient le wahi. Pas tout le monde connaissait écrire aussi. Quelques scribes qui écrivait le wahi et le gardait précieusement. Dans certaines tribus, c'était gardé précieusement et c'est lorsque, on ne rentre pas dans les détails, lors du khalifa de Abu Bakr al-Siddiq, suggestion de Umar, Abu Bakr fait réunir une première fois tous les ajza, c'est-à-dire tous les chapitres. D'accord? Et ensuite, à l'époque de Uthman, il y a encore plus d'emphase. Bref, on est tous d'accord qu'il y a plus de mushaf de Coran dans la masjid de Montreuil que dans la masjid Nabawi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lieu de culte à Madinah, il y avait combien de masjid? Une masjid. Après il y avait Quba, quand on s'éloigne, puis dans les endroits éloignés, d'accord. Le nombre de lieux de culte qu'on a ici, ça ne manque pas. Madrasa, mashallah, hadith wala haraj, Ratanier, Saint-Clotilde, Centre-Ville, Moufia, mashallah. Alors qu'à Makkatul Mukarrama, il y avait une madrasa. Une madrasa, une médiasa clandestine, Al-Arqam ibn Al-Arqam. C'était sous la montagne de Safa, si je ne me trompe pas. Ça appartenait à un jeune garçon de 11 ans. Quel âge tu as? Chef Takaif, 11 ans. Comment tu t'appelles? Brahim, tiens, comme moi. Un jeune homme, un jeune garçon, à l'époque, hein, quand 11 ans, c'était déjà un jeune homme. Donc, si, Inch'Allah, il avait accepté l'islam. Et son cœur s'est ouvert. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il propose cet endroit qui appartenait à sa famille pour faire la première madrasa. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réunissait avec les sahaba pour les expliquer, pour leur donner les détails des derniers versets qui avaient été révélés. Première madrasa clandestine. Ça n'a pas coûté un sou, hein. Il n'y avait pas pour faire la toiture, l'étanchéité, mettre la clim, la moquette, les étagères, les bancs et tout, tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Tout ce que nous, le luxe que nous nous réclamons, qu'Allah nous pardonne. C'était grande simplicité, c'était caché, mais donc on est d'accord que ici, on a plus de madrasa que pendant le Ahd Makki, pendant la période mécoise, oui. C'est-à-dire qu'on a tous les infrastructures, les supports, les hommes qui ont appris, qui ont la compétence. Les mosquées, mashallah, plus ou moins, elles se remplissent. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a quand même un éloignement de la religion? Il n'y a pas le retour à souhaiter. Quand on dit, excuse-moi, le retour d'investissement, on ne le voit pas encore. Le retour d'investissement en termes de spiritualité, il n'y est pas. Il y est pendant le mois de Ramadan. Oui. Pendant le mois de Ramadan, c'est plein, alhamdulillah. Tout le monde est heureux, c'est comme si que on est tous des muttaqis. On est tous des muttaqis. Mais voyez, le lendemain, deux jours après, on se rend compte qu'on retourne à une situation catastrophique, initiale. Le manquement, c'est quoi? Taqwa. Iman. Tawhid. Connaître l'unicité d'Allah. Connaître la foi, c'est quoi? On se focalise sur les a'mal, sur tout ce qui est zahir. Regardez l'importance qu'on donne, je ne fais aucune critique. L'importance qu'on donne à l'habit du musulman. Si je voulais être un peu méchant, je parlerais de la panoplie du musulman. Et si je veux être satirique, je dirais que pour certains, c'est le déguisement du musulman. Si on voit quelqu'un entrer dans la masjid, je ne vise personne, avec un t-shirt, un pantalon, tout ça, c'est un béadab, c'est un mani habillé. C'est la seule chose qu'on retient. Seule chose qu'on retient, ben, mettre pas bazou, kafni, mettre pas des thawb, d'accord? C'est la seule chose qu'on retient. Ah, rappelle-moi ton nom, Youssouf. Ah, Youssouf abonné. Ah là là, c'est la catastrophe. C'est comme si sa foi est en danger. Sans minimiser la sunna, rien. Comprenez mon discours, qu'est-ce que je veux dire? C'est la seule chose qui nous intéresse. Zahir, ce qui est extérieur, ce qui est apparent. Mais tout ce qui est intérieur, tout ce qu'on appelle iman, la foi, pour nous, on n'essaie même pas de connaître. On n'essaie même pas de comprendre. C'est pour ça que, depuis plusieurs mois, on reste sur ce sujet, parce que ça c'est essentiel. Ça c'est essentiel. Et en insistant sur les personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour de Qiyama, ça c'est les exemples à suivre. Ça ce sont les exemples. Quand on connaît qu'il y a sept catégories de personnes qui seront heureux, le jour où tout le monde sera malheureux, ils seront honorés. Alors que beaucoup seront déshonorés, ils auront le cœur apaisé, tranquille. Pour cette étape et pour les étapes d'après, alors que les gens seront dans une angoisse indescriptible, on comprend que ces gens-là, ils ont été agréés par Allah. Leur passage sur ce dunya a été agréé, accepté par Allah. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait sur ce monde, dans ce dunya. Et ce qui est extrêmement rassurant, c'est de savoir que ces sept catégories de personnes-là, hein, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas limité à une époque. C'est pas que le prophète a dit des personnes, par exemple, hein, là on est en train de parler de Rajulan et Tahabba fillah, les gens qui s'aiment pour Allah. Le prophète n'a pas fait quyoud que les gens qui s'aiment pour Allah parmi mes compagnons. Non. Si c'était que parmi les Sahaba, on se serait dit que ben, vraiment dommage, c'est inaccessible. On n'a pas été choisi pour être parmi ces générations. Mais non! Rajulan itahabba fillah, ceux qui s'aiment, qui se fréquentent avec sincérité pour Allah, c'est à toutes les époques jusqu'au Qiyam. Donc, on a tous cette possibilité, on a tous notre chance, entre guillemets, de faire partie de ces gens. C'est-à-dire en développant les mêmes qualités. Donc, ces personnes-là, qu'on avait commencé avec Imam Adil, un roi juste, on avait vu ensuite Shabu Nasha'a fi ta'atillah. Un jeune qui a donc grandi, qui a passé sa jeunesse dans l'adoration d'Allah, en respectant donc les ordres d'Allah et les interdits. Ensuite, l'homme dont le cœur est attaché aux mosquées. L'objectif, c'est que, premièrement, on soit admiratif de la position de ces gens. Et deuxièmement, on étudie qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie d'une de ces catégories. Développer les qualités pour être soit un jeune qui va rester dans le droit chemin jusqu'à, machallah, la mort, jusqu'à ce qu'il devient âgé, qu'il meure, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans le droit chemin, même dans la période de la jeunesse. D'accord? Quand on voit un homme dont le cœur est attaché à la mosquée, à la masjid, on avait vu comment les sahaba, les tabi'in, les atba'a tabi'in, quelle était leur relation, leur alaqa avec la masjid, ça nous a permis de réaliser le chemin qui reste à accomplir. Et ça, mes chers frères, je parle pour moi en premier. Quand je fais un discours, c'est moi le premier qui doit mettre en pratique. Ça, c'est très important de prendre conscience qu'il y a un chemin qui reste à parcourir. Parce que quand on dit que rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, quelqu'un dont le cœur est attaché à la mosquée, tout le monde se sent concerné. On peut prendre au premier degré l'homme dont le cœur est attaché à la masjid. Dire que si par exemple quelqu'un veut détruire la mosquée, je ne suis pas d'accord. Ben, mon cœur est attaché à la masjid. Vous croyez que toute la Ummah aura cette faveur, jour de Qiyama? Ben non. Quand on parle de sélection, s'il y a le chiffre 7, 7 catégories de personnes, c'est pas toute la Ummah. Et donc, plus on a avancé dans ce chapitre, plus on a compris que, waouh, être attaché à la masjid, c'est pas uniquement venir 5 salats. Ben non, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un amour véritable qu'on vient premier saf, takbir oula, pendant des années, comme les tabi'in le faisaient, certains sahaba, les pieux prédécesseurs. Bref, ça nous a permis de réaliser, de comprendre comment les pieux prédécesseurs aimaient la masjid. Et là, on compare avec notre situation, on se rend compte qu'on est à des millions de kilomètres d'eux. Et donc, je ne peux même pas pour l'instant espérer avoir ce degré parce que on joue pas de le même tableau là, passez-moi l'expression. Eux, c'est comme des gens, hein, quelqu'un qui est en first league et l'autre qui est en division d'honneur ou d'horreur, c'est le même jeu, hein, même nombre de personnes, même balle, même terrain, même métrage et tout, mais c'est pas pareil, d'accord? Excuse-moi la comparaison qui est ridicule, mais relation de sahaba avec masjid et ma relation avec masjid, incomparable, et qu'Allah nous pardonne. Mais ça me permet d'avoir un électrochoc. Et ça, c'est très important, ça. Tout le monde a besoin d'un électrochoc. Alors, il y a deux solutions. Soit on demande au responsable de masjid l'autorisation de prendre un fil, de dénuder le fil. Chacun y gagne un petit coup de 220 volts et on comprend. Mais ça va être compliqué et c'est pas sûr que ça fait réveiller Iman. Ça fait pas réveiller. Ou alors, on lit les textes qui expliquent le quotidien des sahaba de la masjid. Le quotidien des tabi'in de la masjid. Pas de des actions qui nous dépassent. Celui qui a donné tous ses biens dans le chemin d'Allah, il a fait ci. Il dit, j'ai même pas le SMIC, j'ai même pas le STA, il existe encore STA, moi, il n'y a plus. Et ainsi de suite. C'est même pas ça. C'est, tu viens à la masjid, mais comment sahaba est venu à la masjid? Tu aimes ta mosquée? Ah oui, m'a donné 5 euros, tu me demandais. Non, m'a donné 5 euros en janvier 2014. Il n'oubliera pas. Il fait 5 mois, il fait 2 mois, il donne 5 euros pour lui. Ben voilà, je suis un bienfaiteur de la masjid. Comprendre comment les sahaba, les tabi'in, les pieux prédécesseurs aimaient et venaient à la masjid, fréquentaient la masjid, et moi comment je fréquente la masjid. Donc cet électrochoc me permet de me réveiller. Parce que sinon on se repose sur nos lauriers. On se repose sur nos lauriers. C'est déjà une expression islamique, mais il n'y en a point. On se repose sur notre miswak, je sais pas, non, ça se dit pas. On se repose sur nos lauriers. On a l'impression qu'on est les top. Je suis le musulman top. Je suis de telle famille, telle race. Je suis hafiz du Coran. J'ai ça, mon papa, il a fait ça, mon grand-père a fait ça et tout. Qui sait d'où j'en moi là? Il n'y a pas deux comme moi. On pense même que on fait partie des gens les plus aimés par Allah. Parce que je viens à la masjid, le petit poignet là-bas, là, cela, et ainsi de suite et tout. Donc, il n'y a rien à dire. Pour nous c'est din kamil. On a atteint le ihsan, le plus haut degré de foi. Mais quand on voit comment sahaba tabi'in, atba'a tabi'in, ils fréquentaient la masjid, et là on parle d'une seule action, fréquentation et attachement à la mosquée, on se rend compte que ces gens-là, ils vivaient sur une autre planète. C'est la même masjid, mais leur relation, c'était un autre niveau. Quand on a, j'ai plus les noms des pieux prédécesseurs, on regarde les expressions en français, sinon il y en a qui auront peur. Il y en a un qui disait que si vous entendez Hayya ala Salah, vous ne me voyez pas au premier rang, cherchez-moi où? Cimetière, Qabristan, Maqbara. Si vous entendez Hayya ala Salah, Adhan, et que vous ne me voyez pas au premier rang, c'est que je suis mort, je suis déjà enterré. On pourrait juste dire cette phrase pour nous rappeler. Est-ce que nous, on est à ce niveau? Moi en premier, hein, avec tout le temps retard, je reconnais. D'accord? Donc il y a matière à réflexion. C'est pour ça que, vous voyez ce hadith là, et le livre qu'on utilise, hein, c'est un kitab en deux volumes. Ce livre-là, il y a un collègue qui a voulu voler mon livre, enfin, regardez mon livre, il a dit, c'est quoi ce livre? Moi, j'aime pas prêter. Ce livre-là, il fait 470 pages. Ça, c'est le premier volume. Il y en a un deuxième, pareil. Allez, on va dire, fait 500. Il y a 1000 pages qui ont été écrites uniquement en commentaire de ce hadith. 1000 pages. Sur le hadith, les 7 catégories de personnes, et là, il te donne tous les détails sur les sifat à acquérir pour faire partie, pour espérer être comme ces gens-là. Comment est-ce que les sahaba vivaient la masjid? Comment est-ce que les sahaba se fréquentaient? Ils avaient muhabbat entre eux. Comment les jeunes sahaba, ils ont vécu dans le chemin d'Allah, ils ont vécu dans l'obéissance avec les histoires de Moussa ibn Umair et de Ali ibn Abi Talib et tous ces jeunes qu'on avait vus. C'est ça l'objectif. Donc, c'était juste pour recadrer, ça fait au moins un mois et demi, deux mois qu'on n'avait pas repris. Donc, on était arrivé à cette thématique, les gens qui s'aiment pour Allah. C'est-à-dire pas par intérêt, uniquement pour Allah. Une relation de muhabba, sincère, avec ikhlas. Et le mot ikhlas, là, c'est ce qui est le plus important. La sincérité de le culte, la sincérité dans nos actions, dans notre relation avec Allah. S'il n'y a pas ikhlas, les actions n'ont pas de moindre valeur. S'il n'y a pas ikhlas, mutaba'a, si on fait une action sans qu'il y ait la sincérité, sans qu'il y ait la pratique prophétique ou les ordres d'Allah, l'action n'a pas de valeur. Donc, la fréquentation de notre prochain avec sincérité. Et très souvent, quand on parle de akhlaq, quand le prophète dit que la chose qui pèsera la plus lourde dans la balance au jour de Qiyama, c'est Al-Khuluqul Hassan. Hajib ça. Je me dis que dans ce cas, ma balance sera extrêmement lourde. Chaque fois que je vois quelqu'un, je me dis salam alaikum. Salam alaikum, bye, ça va? Bien? Famille, tu vois? Tchouf, un premier cours. Tension, il raconte à moi un problème. Il faudra aider Ali. Donc, ça va aller bien? Tchouf, ça va. Il a dit, il est bien. Voilà, le devoir est accompli. Qu'Allah nous pardonne très souvent, on agit comme ça. Et, il dit, comme mes batailles, je me bagarre avec personne, je n'ai jamais vociféré, jamais crié, jamais fait du mal, donc j'ai un excellent comportement, donc c'est bon pour moi, ma balance sera trop lourde même, le jour de Qiyam, je ne sais pas comment on va faire, mais bon, on va faire sa balle. D'accord? Notre conception de khuluqul hasan, de bon comportement, mais quand on voit les tabi'in, comment ils se fréquentaient, on se prend des claques. On se rend compte que ben on est des sauvages. Franchement, quand on dit que aider son prochain, jusque ce qui avait été dit une ou deux fois avant la trêve, aider son prochain, c'est surtout ne pas attendre qu'il manifeste le besoin. Surtout ne pas attendre que la personne vienne te voir, vienne t'expliquer que je suis dans la difficulté, dans le taklif, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider? S'il est venu t'aider, il est venu te demander là, tu as déjà perdu une grande partie. Ça, c'est ce que les sahaba, les tabi'in faisaient. Ils savaient, s'ils pensaient que quelqu'un a des difficultés, avant que la personne ne manifeste ou n'exprime son besoin, ils allaient le voir et le donner. Ils le donnaient pour que la personne protège son izzah, protège son honneur. Vous pensez que c'est facile pour un père de famille d'aller voir quelqu'un tendre la main? Ça le casse. Ça le casse, ça. C'est comme si qu'il vient te dire que j'ai raté ma vie. Toi, tu as réussi ta vie, aide-moi. Qui est d'accord pour tenir ce genre de discours? Même si les mots, ce ne sera pas ces mots-là, mais cette situation, elle traduit ce qu'on vient d'expliquer. Donc, et voyez comment Allahu Akbar, quand nous parle de pays, de droits de l'homme, de fraternité, de tout ça, on a dans le modèle prophétique et le modèle des trois générations, on a les meilleurs comportements possibles pour la race humaine, pour l'humanité, les meilleurs comportements que le monde, que la race humaine n'a jamais connus. C'est pour ça que le Aïcha devait pas de problème que quand il a al Qur'an, son comportement c'était le Qur'an. Tout ce que le Coran prophète le mettait en pratique, pas uniquement de le qiyam ou le tahajjud, dans les relations avec les gens également. Donc, le but, c'est de comprendre, de rectifier, de comprendre et de rectifier une approche parfois erronée du bon comportement. Parce que, On ne peut pas tout dire aussi en même temps. Si le gars, il a fait 1000 pages, on ne peut pas résumer ça en 20 minutes, d'accord? Dans chaque catégorie, là, il y a une grande leçon à retenir. Il y a une grande leçon à retirer. Et dans cette catégorie qui nous intéresse, c'est la troisième, les gens qui se fréquentent avec sincérité par amour pour Allah, il y a muhabba, fraternité, il y a solidarité, il y a entraide et surtout il y a sincérité dans les relations. Et ça, ça nous permet de rectifier notre compréhension du bon comportement. Autre exemple, petit exemple, puis je pense qu'on va clôturer. Quand on parle des relations familiales, aujourd'hui même, il y a une personne, pendant quelqu'un de, mashallah, religieux, m'expliquait que voilà, toute la famille fait une invitation à la plaine, mais ah, même pas aller et tout, même pas toute la famille, la maillage et tout. Je dis pourquoi? Elle dit non, ben, il y a des messieurs, il y a des dames et tout, il y a, comment dire, t'es là, mélange. Je dis, ben, quand on passe à table, comment vous faites? Les messieurs, côté monsieur, dame, côté dame, non? Il dit oui. Je dis, ben, où est le problème? Elle dit, moi, non, j'aime pas, hein, trop de pelle-mêle, trop de lamaillage. Elle dit, ah, itaqillah, ça c'est priorité. Ça c'est priorité, ça. Vaut mieux tu vas dans ton repas familial, même si le but c'est que manger, que tu restes toute la journée dans la masjid. Hadith, ça c'est de moi, ça. Hein, parce que silatul rahim, là, entretenir les liens de parenté, ça c'est capital. Et celui qui casse ça a la la'nat d'Allah, la malédiction d'Allah. Allah le détruit. Hadith, ça qui dit, celui qui rompt les liens. Alors, notre compréhension de silatul rahim, et vous allez me dire si c'est pas le cas, si c'est pas une réalité, quand je parle de garder de bonnes relations, dans ma tête, c'est je garde de bonnes relations avec les gens qui sont bien avec moi. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait tout de suite rectifié ça. Le prophète m'a dit que celui qui garde de bonnes relations, là, c'est pas celui qui garde de bonnes relations avec celui qu'il aime bien. Non, garder de bonnes relations, c'est avoir un bon comportement, garder de bonnes relations réellement avec ceux qui ne veulent pas te voir, avec ceux qui ont rompu avec toi. Si par exemple tu as un tonton, une kala, une tante, une sœur qui t'aime bien, tu manges, on va placer un moussa, on va une pizza et tout, et toi aussi tu fais pareil en retour, on rend visite et tout, on a fait une grande affaire là. Est-ce que vous avez fait quelque chose de remarquable? La personne t'aime bien, vos relations sont déjà correctes, alhamdoulilah, et donc ce genre d'échange et tout, c'est acquis. C'est bien, mais c'est pas ça le salatul rahim. Salatul rahim, c'est le beau-frère gado de travers depuis masjid, depuis premier saf jusqu'à dernier saf, parce que le jour il n'a 14 ans, on l'a dit telle chose à table. Bref, ce genre de petites bêtises qui existent dans toutes les familles. Ou un tonton ne parle pas avec un neveu, ou un frère parfois ne parle pas avec un autre frère. Ce frère qui ne parle pas avec toi, là, le vrai silatul rahim, c'est que toi tu fais un pas vers lui. Ça c'est dur. Ça il faut que tu casses ton orgueil. Faire un pas vers quelqu'un qui est en froid avec toi, si c'est toi qui as tort, mais on a intérêt grouillaou, allez demander de maf, mais les calmotes, ils viennent trapologuer le choc dans la tombe et ainsi de suite, dans les autres étapes. Donc ça, il n'y a rien à dire. Mais dans le cas où c'est lui qui a tort, c'est ça le plus grand mujahada. Et c'est ça que le cœur n'accepte pas. Parce que le cœur, il manque tazkiya, il manque de purification intérieure. Le cœur rempli de takabur, fierté, orgueil, le droit. De nos jours, tout fonctionne par les droits. Je suis dans mon droit, d'accord, au cas qu'il s'est chez le notaire, là on parle de din, là. Ton frère ne t'adresse plus la parole depuis 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans, alors que c'est lui qui a tort. Tu vas rester éloigné de lui, ça c'est ton sang, ça. Silatul rahim, là, c'est parce qu'il a le même sang de son corps. Même si il a été malhonnête envers toi, même s'il t'a insulté, il t'a humilié, il t'a accusé de je ne sais quoi, où il a humilié ta femme, il a dit des choses sur tes enfants, où il a fait du tort à votre maman commun ou papa, d'accord? À un moment donné, il faut dire basta, il faut faire maf, il faut pardonner. Quelles que soient les erreurs. Sauf s'il a fiché, bien sûr, il a quitté le dîn. Là, c'est une autre approche, d'accord? Quelles que soient les erreurs, même s'il t'a frappé à 100, À un moment donné, tu vas voir la personne et tu accèdes, même s'il ne demande pas des excuses, tu vas dire que pour le mal qui a été fait, pour moi c'est fini, tu es mon frère. Je t'aime pour Allah, tu es mon frère et j'ai muhabba pour toi. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas faciles, ça. Parce que quand quelqu'un vous fait du mal, là, l'être humain, il est fait comme ça, il n'arrive pas à oublier. Et on va voir, il y avait d'autres hadiths à citer. Il y avait d'autres hadiths, hein, ça concerne un peu la purification intérieure. Comme quand on peut arriver à une tazkia sans faire des choses, d'accord, qui sortent des limites. Les hadiths magnifiques qui parlent de, par exemple, celui qui contrôle sa colère. Ça, hein, l'âme d'un tawfiq en premier. Hein, celui qui contrôle sa colère alors qu'il est dans son droit. Qu'est-ce qu'Allah lui accorde? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu as un sentiment humain, un sentiment inné. D'accord? Presque un sentiment instinctif. D'accord? Mais ton iman va bloquer cette colère. Ton iman va casser cette rancune, va casser cette fierté, va casser cet orgueil. Ton iman va bloquer cette jalousie montante. Ou tu ferais, il a gagné un travail, ou il a gagné un gros loto, il a gagné telle chose et tout. Oh, il n'a pas gagné et tout. Sa jalousie qui monte, bloque à l'inette. Ton iman, il étouffe cette jalousie et il l'anéantit. Ça, c'est mujahada. Ça, c'est exceptionnel, extraordinaire, ça. Et quand on parle de hadith, le hadith que celui, hein, c'est un hadith Sahih al-Bani, de lequel il dit, subhanallah, une parole magnifique, « وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَهُ اللَّهُ عَوْرَتَ » Celui qui contient, qui s'arrête, qui bloque sa colère, Allah, hein, va cacher ses défauts. Celui qui, hein, c'est plutôt ça je voulais, celui qui contrôle sa colère alors qu'il a en droit de le faire, مَلَا اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَا أَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah Azza wa Jal remplira son cœur d'espoir, de joie de la résurrection. C'est-à-dire que quand on arrive à se contrôler pour Allah, ça c'est quelque chose qui est aimé par Allah Azza wa Jal. Donc, le salatul rahim, pour revenir, garder de bonnes relations, c'est aller vers cette personne qui t'a fait du mal et qui ne veut plus te voir et régler, pas se justifier, dire qu'on oublie tout, on est des frères et recommencer à avoir des relations correctes. Ça c'est salatul rahim. Mais est-ce qu'on l'a réellement compris? Voilà, on se focalise, dit, ben, il attend, mais attend, quand ça va de mon amamaf. Id, Bakrid, Kiamat, quand ça? Ben Mayet papa, Ben Mayet maman, quand on aura un mot, lui va venir de mon amamaf. Si on attend avec fierté, quand est-ce? Il attend, oui. Mais si j'attends qu'il vienne me demander pardon, travail n'avance pas. Contraire, qu'est-ce que le prophète me dit? Man tawadda'a lillahi, quelqu'un connaît le hadith? Rafa'ahu Allah. Quand on fait preuve d'humilité pour Allah, Allah va t'élever. Celui qui fait tawadu'a, il se rabaisse. Il se rabaisse d'un certain sens, d'accord? Mais tu te rabaisses, tu fais ça par amour pour Allah, Allah Azza wa Jal va t'élever. Même si tu n'es pas élevé aux yeux des riches, aux yeux des notables, j'aime bien cette expression, aux yeux des gens puissants, entre guillemets, de ce dunya, pardonnez-moi. Mais aux yeux d'Allah, tu seras élevé. Et qu'est-ce qui est plus intéressant? Il n'y a même pas besoin de vous poser la question. Avoir un manzila, un makana, une place auprès d'Allah ou auprès de ces gens-là qui... D'accord? Donc, mes chers frères, il y a un travail à faire. Et notre objectif à travers ces catégories-là, c'est de comprendre le nectar qu'il y a dans ces hommes-là. Qu'est-ce qui fait que Allah est tellement content d'eux qu'Allah leur accorde ce privilège qui est unique. C'est le seul privilège, le jour de la résurrection. C'est-à-dire, de la première étape, c'est la seule situation favorable. Et à nous donc, de trouver notre place. Et c'est de voir si on peut être sélectionné pour être avec ces gens le jour du Qiyama. Alors juste pour pas qu'on se termine sur rien de nouveau, il y a... Parce qu'après, il y avait pas mal de choses sur les ulama aussi, ça. On parle pour moi en premier. Comment les ulama, en plus de donner le ilm, ils avaient un comportement magnifique, ils venaient en aide à leur proche. On va voir les histoires du cheikh d'Imam Bukhari, de l'anse, du professeur d'Imam Bukhari, son akhlaq, et de Soufiane ibn Uyayna. Ça, c'est les piliers, ça, de Hamza, Zayyad, Saïd ibn al-As, et ainsi de suite. Ça, par la suite, on verra quelles étaient leurs qualités. On va juste donner deux citations. Abu Sulayman, rahimahullah, explique que inni, on va dire en français, dit que donner une bouchée de nourriture à mon frère en islam, quand je le fais, Non, il dit que, je reprends la traduction, il dit lorsque je donne une bouchée de nourriture à mon frère en islam, فَأَجِدُ طَعْمَهَا فِي حَلْقِي. C'est exactement comme si que je trouve, s'il revient, dis-moi, c'est exactement comme si que je trouve le goût de cette nourriture dans ma gorge. Et les savants, ils expliquent, c'est quoi cette situation? T'as pas entendu quand on l'a? Les savants expliquent, c'est quoi cette situation? Il dit que quand on vient en aide à notre prochain, quand vous avez un ni'ma, d'accord? Je vous donne un exemple bête, hein, d'accord? Vous avez acheté un gros gâteau. Ok, vous avez votre frère en islam, vous partagez avec lui. Vous avez le choix, soit vous partagez, vous donnez un morceau, soit vous mangez tout vous-même. Mais vous voyez, si c'était moi qui mange tout, qu'Allah me pardonne. Si vous donnez la moitié à votre prochain, hein, vous partagez, ben dans ce que c'est comme si que ce que lui il va manger, c'est comme si que normalement vous devez trouver ce même plaisir, parce que le vrai mu'min, sadiq, le vrai croyant sincère, c'est celui qui aime pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Et quand ton prochain il a un bienfait, c'est comme si que tu dois être joyeux pour lui. Alors que l'hypocrite, quand il voit heureux, c'était la crise, il est content. La crise, il sourit. La crise, il fait pas bien travail, bye. La crise, il a bien fait. Le mounafir, c'est ça. Quand on voit quelqu'un qui est dans un bienfait, un petit quelque chose de le cœur. Si on ressent ça, hein, attention. Lave le cœur à l'eau de Javel, lave le cœur avec je sais pas quoi, monsieur propre ou autre chose, parce qu'il y a un gros problème de ce cœur-là. Alors que le vrai croyant, il voit quelqu'un d'un bienfait, alhamdulillah. Si tu as ça, mashallah. Je me rappelle, petite anecdote, étant encore étudiant, et un professeur savait qu'on avait reçu chacun une récompense. Il avait dit une parole, il dit, vous savez que quand je vous vois avec cette récompense, c'est exactement comme si moi-même je l'avais gagné. J'ai autant de joie que vous. Je dis, ben, Ajib ça. Ce qui veut dire que voir son prochain dans un bienfait doit nous procurer le même plaisir que si nous on l'avait. C'est pour ça que Abu Sulayman, il dit que quand mon frère il a quelque chose, un ni'ama, je lui donne une bouchée de nourriture, c'est exactement comme si que moi-même je suis en train de profiter de ce plaisir, parce que quand mon frère est heureux, mon frère est content, moi je suis également content. Si on pouvait filmer ça, c'est Ajib. Masha'Allah, notre frère qui est en pleine lutte avec un contrôleur volant. Allah Akbar, il attrape avec ses mains. C'est un courageux. Bien, on termine avec Abu Ja'far. Mohammed bin Ali dit que il avait l'habitude tous les vendredis, kullu Jum'a, il avait l'habitude d'inviter ses frères en islam. Pas sa famille, hein, ses frères, ses amis. Il appelait les gens à sa maison. Fayyid'imuhum al-ta'am al-tayyib. Il leur donnait de la bonne nourriture. Tayyib, tayyib, pas manger à rester hier. Non, pas comme dit quelqu'un, il vient manger à case, entre parenthèses, à manger hier à rester. Ne sais ça à jeter, mais ma vieux. C'est pas ça. Il dit que fayyid'imuhum al-ta'am al-tayyib, la nourriture qui venait d'être préparée. Par exemple, le vendredi, franco, mangeons. Kalikitsui? Aïe, aïe, aïe. Kalikitsui, papa, le piment frites et tout. Vous connaissez. D'accord, on fait un bon repas, le repas préféré, la tradition. On trouve deux, trois personnes, on m'a dit, bah, viens manger à la maison. On dit, madame, à l'avance, mettre deux viadries en plus. Deux viadries, c'est quoi? C'est deux minutes, cinq minutes de salaire. D'accord? Mettre deux viadries en plus, rajouter un peu de l'eau, c'est ce sunnat aussi, hein, qu'on fait cuire à manger, de mettre plus d'eau, au moins il y a plus de rendement. D'accord? Pour pouvoir donner. C'est pas pour boire plus. C'est pour pouvoir distribuer. Comprenez la finalité, c'est quoi? Pour pouvoir donner à votre voisin. D'accord? Donc, mettre deux viadries en plus, mettre un petit peu plus de l'eau dans les histoires et tout. Mettre deux morceaux de la viande, ne fais pas le rat. Et ainsi de suite. Appelle deux personnes à la maison. Quantité de thawab qu'on peut gagner. Quantité de hasana qu'on peut gagner. Mes chers frères, ça c'est inestimable. Mais est-ce qu'on le fait? Ça, je parle pour moi en premier. Ça, c'est comme ça que la communauté musulmane s'est construite à Al-Madina. Al-Ukhuwa. Le lien de fratellité. Muhajir et Ansar sont des frères. Ils ne se connaissent pas. Deux tribus arabes, Fakhid, deux tribus complètement distinctes. Mais il y a la ilaha illallah. Moi aussi, j'ai la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc, je partage tout avec toi. C'est comme ça que les musulmans, ils ont construit Al-Madina al-Nabawiya. C'était pas avec du marbre, avec des pierres artificielles, des fondations. C'était avec du cœur. Ça, c'était les valeurs que le prophète alayhi salatu wassalam avait enseigné aux sahabas. Donc, pour revenir à notre anecdote, il invitait les gens pour venir manger chez lui, il leur donnait de la bonne nourriture. Il leur donnait du parfum. Bref, deux catégories de parfums, le itr et le bukhur. وَيَرُوحُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ مِنْ مَنْزِلِهِ jusqu'à ce qu'ils aient le ventre plein et ensuite il les laissait repartir de chez lui. Ça, c'est ce genre d'action que les tabi'in avaient l'habitude. Et on va voir, il y a plein d'autres anecdotes qui vont exactement dans le même sens des personnes différentes. Ça veut dire que c'était une habitude. C'était quelque chose de normal, ça, à cette époque. On trouve quelqu'un, on appelle à la maison, on donne à manger. Et ta'am ou ta'am, ça fait partie des conditions pour accéder au Jannah. Donc, Inch'Allah, prochaine fois, on va continuer à voir l'exemple des ulama, de Soufiane, de Saïd ibn al-As, de le papa, pas le papa, le professeur d'Ibn Bukhari, et ainsi de suite, comment il faisait le khidma des gens. Pas seulement en enseignant la religion, mais le khidma, ils invitaient les gens chez eux pour manger, ils leur donnaient des cadeaux, et ainsi de suite. Ils avaient ce akhlaq, ce comportement qui était exemplaire. On va voir également, Inch'Allah, et ça c'est des choses qui, waouh, ça fait réfléchir, certains, hein, parmi ces tabi'in, lorsqu'ils voyageaient, lorsqu'ils partaient en voyage, ils se faisaient la promesse. Ils avaient des exigences. Exigence, c'est quoi? C'est pas exigence que moi je veux telle prestation et tout. Non. Ils exigeaient que, ok, on fait ce voyage. On est un petit groupe de 10. On fait ce voyage ensemble à une seule condition. Je suis le khadim du groupe. C'est moi qui fais votre khidmat. Si je viens avec vous, vous me laissez laver vos vêtements, préparer la nourriture, nettoyer vos chaussures et ainsi de suite. C'était sharaf pour eux. Ça, c'était un grand honneur pour eux. Alors que nous, parfois, on cherche quelqu'un, pas un monde fait mon khidmat là. Non, moi, un grand Moïsa, moi, t'es, viens acheter des pains pour moi, fais tes affaires. On cherche des khadim. On se croit pour qui là? On se croit pour. Sahaba, il faisait pas. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsque son bâton, asa, tombait alors qu'il était à cheval, il interdisait aux gens de ramasser pour lui. Descendait et ramassait lui-même. Il n'a pas été envoyé, il n'a pas été nommé calife pour que les gens soient son service. Ça, c'était les valeurs de ces sahaba, ridwanullah et al-majma'in. Maintenant, celui qui fait khidmat d'un savant et tout, il y a les récompenses aussi. Ibn Abbas, a été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a eu ce doigt magnifique qui fait qu'il est devenu le plus grand des mufassirs, des commentateurs du Coran du monde entier. D'accord? Ce qu'on doit comprendre, subhanallah, ce qu'on doit comprendre, c'est le akhlaq que les tabi'in avaient dans toutes ces situations. Inch'Allah, encore deux ou trois mardis, on va essayer d'insister là-dessus avant de passer à d'autres catégories de personnes. Qu'Allah nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de l'istiqama pour être maintenant, Inch'Allah, ferme. Là, Inch'Allah, c'est parti, là, jusqu'à Ramadan, théoriquement, il n'y a plus de véritable interruption. On va essayer de rester ferme en alternance. Un mardi, on fait, un mardi, c'est notre collègue qui fait. On essaie de rester avec istiqama, d'écouter, avec l'objectif de mettre en pratique et demander à Allah, Rabbul Izzah, de nous permettre de mettre en pratique. Ma tawfiq illa billah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير